nouvelles. J'ai des nouvelles de notre frère Nicolas. Il a un visa pour une année de nouveau et il va me téléphoner aussitôt qu'il y a une place dans un avion parce qu'il avait un billet pour le 6, mais son visa ne lui ayant été accordé que le 6, il n'a pas pu prendre son avion le 6. Voilà. Voilà, c'est ça l'ambassade française, ils sont formidables. Enfin, déjà, ils lui ont accordé son visa, c'est pas mal. Hein? Que Dieu les bénisse. Il faut toujours qu'ils se fassent remarquer un petit peu d'une façon désagréable. Ils sont terribles, hein? Ils sont terribles. Bon, à part ça, j'ai aussi des nouvelles des châteaux. Ils vont bien, ils sont vivants, on est contents. Amen. Et on va avoir leur visite bientôt. Ils vont venir nous voir avec une ambassadrice, une jeune ambassadrice de la maison d'Aïna. Et ça va être un bon moment qu'on va passer ensemble. On était content d'avoir notre sœur Isabelle cet après-midi, qui nous a couvert de cadeaux magnifiques. Et vraiment, on était très content de la voir. Elle rajeunit, hein? Elle devient de plus en plus mieux bien. Non? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve. Et puis, bon, notre frère Christian, qui n'est pas très bien, que Dieu le bénisse ce soir. Je ne sais pas ce qu'il a. Il ne va pas très bien. Il a pas... je crois que c'est ça, une gastro, c'est ça. Que Dieu le bénisse. Qu'est-ce qu'il y a? Notre frère Alain qui doit venir. Il n'est pas là, mais il doit venir, il va arriver. C'est ça? C'est ça. On a Anne qui est avec nous ce soir. Enfin, c'est super, on est bien. Il fait chaud, Simone, ça va? Bon, c'est mieux. Hein, on s'approche quand même de l'automne. Voilà, tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, soyez les bienvenus. Des fois, vous me posez des questions bizarres, là, hein, quand vous m'écrivez. Vous me dites, on aimerait en savoir davantage sur Enoch. Ben, écoutez, je fais tout ce que je peux. Hein. Vous pouvez aller chercher les pasteurs qui vous parlent d'Enoch. Hein. Il n'y en a pas des milliers. Hein. Alors, soyez patients. Je passe du temps à écrire. Et voilà, donc, à peu près une fois par semaine, on vous met notre frère... Eric Ruiz vous met des nouveautés dans le site, alors allez les lire, méditer, il y a beaucoup à méditer. Hein. Aussi pour Thomas, et puis voilà, quelqu'un me demande au sujet du règne de Jésus pour les 1000 ans. Alors je lui ai répondu, mais le mail n'était pas correct, donc le mail m'est revenu. Alors je voudrais dire à cette personne qui m'a écrit pour me demander de plus amples choses au sujet du règne de Jésus qui va venir régner pendant 1000 ans. Alors je dis, ben écoutez, frère ou sœur, je ne sais pas, assurez-vous déjà qu'il règne sur votre vie aujourd'hui. Hein, puis pour les 1000 ans, on verra. La Bible nous parle de ça, vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse, le règne des 1000 ans, ça va être très, très important. Vous pouvez lire aussi ça sur Internet, dans le dictionnaire. Il y a un dictionnaire où il y a beaucoup de choses dedans. Et puis aussi, vous pouvez aller écouter, je crois que c'est janvier, février, mars, avril. En avril 2007, j'avais prêché sur ces choses-là pendant 3-4 prédications, 5-6 prédications même. Alors allez les écouter, ça m'évitera de vous donner un enseignement privé, hein, parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Écoutez, allez lire déjà tout ce qu'il y a sur le site, vous trouverez des bonnes choses. Voilà, je vais m'efforcer de répondre un peu à tout le monde, il y a beaucoup de lettres. Que Dieu vous bénisse, je suis très content, ça marche bien, on a de plus en plus de monde qui vient sur Internet. Ce soir, je voudrais qu'on ouvre la Bible dans 1 Corinthiens 10, 20, c'est la suite de mes deux prédications, mes deux dernières prédications. 1 Corinthiens 10, 20. On prend la deuxième partie de ce verset. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'apôtre Paul ne veut pas qu'on soit en communion avec les démons. Je vais aller plus loin que les choses que j'ai dites vendredi et dimanche passé. Je vais vous enseigner des choses qui sont en général pas très bien accepté dans les milieux évangéliques, mais ma foi, tant pis, je vais aller un peu plus loin dans les Écritures. On ne parle pas beaucoup des anges dans les milieux. C'est vrai que ces créatures existent, les anges existent, les démons existent. Et Paul nous en parle, Jésus nous en parle, toute la Bible nous en parle. Et parmi les démons, les êtres, ces entités inférieures, vous en avez qui sont plus ou moins évolués. Plus ou moins éclairés, même vous en avez qui sont plus ou moins compréhensifs, Tandis que d'autres sont d'un ordre vraiment très inférieur, butés, bornés. C'est un petit peu comme chez les êtres humains, si vous voulez. Nous sommes aussi des esprits, hein, faut pas oublier. Nous avons revêtu un corps de chair, mais nous sommes des esprits. Et parmi nous, il y a des gens butés, il y a des gens bornés, il y a des gens qui peuvent faire tout ce que vous voulez, ils évolueront jamais. D'autres, ils sont plus compréhensifs. Vous voyez, c'est la même chose. Certains de ces esprits mauvais sont plus raffinés que d'autres. Et par exemple, vous avez des esprits qui influencent les artistes, les penseurs, les gens qui font, qui sont altruistes, qui ont. Et alors, n'est-ce pas, c'est des autres démons que ceux qui pratiquent, je ne sais pas, la prostitution, des choses comme ça. Hein, c'est d'autres choses. Et c'est pas des esprits qui sont soumis à Dieu. Et comme les gens qu'ils viennent et qu'ils séduisent ne sont pas soumis à Dieu, alors ces mauvais esprits leur font payer cher l'inspiration qu'ils leur donnent. Et voilà pourquoi on voit beaucoup d'artistes qui sont déprimés, qui se finissent dans l'alcool, dans la drogue, dans la débauche, toutes sortes de choses. Mais au départ, c'était tout beau, tout magnifique. Hein. C'était, ils avaient des muses, comme on dit. Hein. C'est des espèces d'esprits pas tout à fait clairs qui venaient et puis qui ont des réels talents. Hein. Ou alors, ce sont des esprits, vous voyez, les gens qui sont artistes, les gens qui sont, c'est des gens qui sont très fins, qui ont... un peu un esprit un peu féminin, intuitif, tout ça. Et alors, ces esprits va amplifier tout cela et vont commencer à avoir des sautes d'humeur, des caprices, des bouderies et compagnie. Donc, ils ont en eux des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Alors, ces esprits ont du talent. Eux-mêmes, ils ont du talent et leur talent est enrichi par le talent de ces esprits. Mais comme ces esprits ont un sale caractère, eh bien, ces artistes, ces gens qui sont fins, qui ont une façon subtile, n'est-ce pas, de se comporter, d'envisager les choses, attrapent facilement un caractère aigri. Et voilà, et ils empoisonnent ces mauvais esprits, empoisonnent la vie de ceux qui sont en train de squatter. Alors ces mauvais esprits, ils viennent avec, n'est-ce pas, beaucoup, ils séduisent, ils ne vont pas venir avec des choses qui ne correspondent pas à la personnalité de l'artiste, par exemple. Hein. Ils vont venir, ils vont s'installer gentiment, n'est-ce pas, ils ont une communion, n'est-ce pas, et puis petit à petit, sur par exemple 10 ou 15 mauvais esprits comme ça qui rentrent, il y en a 2 ou 3 qui partent en éclaireur, ils vont chercher d'autres esprits, et puis ils viennent s'installer, et puis c'est des esprits plus vulgaires, sont des choses, et puis leur vie devient épouvantable. Vous avez combien de ces artistes qui sont obligés de faire des intoxications, on dit, mais comment ça se fait, ils sont beaux, ils chantent bien, ils dansent bien, ils sont aimés, ils ont la richesse, ils ont tout, puis ils se vautrent dans des trucs grossiers comme ça, ils sont obligés de, mais comment ça se fait, ben voilà, c'est comme ça que ça se fait, ils ont leur vie empoisonnée. Et puis il y a des bons esprits artistiques aussi, des esprits qui viennent de Dieu, qui peuvent influencer les artistes, et avec de bons esprits, n'est-ce pas, ils peuvent être influencés, non seulement leur talent, mais leur personne. La personne qui est habitée par un bon esprit de Dieu, qui a un talent, peut aussi apporter avec lui d'autres esprits qui font que le caractère de cette personne est gentil, voilà, n'est-ce pas. Vous m'avez compris. Je vous rappelle qu'il y a longtemps de ça, ça devait être en 70, j'avais dit à Camélia, c'était ma maman spirituelle, j'avais dit, maman, il me semble que tous les inconvertis sont pleins d'esprits mauvais. Elle avait éclaté de rire, puis elle m'avait dit, ah ben c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte. Ça faisait 3 ans que j'étais converti, 3-4 ans. Et puis, en mûrissant dans ma vie chrétienne, j'ai commencé à voir que les chrétiens qui sont consacrés sont en communion avec les anges de Dieu. Parce que si on peut être en communion avec des démons, on peut aussi être en communion avec des anges. Mais ça, qui enseigne ces choses? Qui parle de ces choses? Parce que d'un côté, vous avez les bons anges, et de l'autre côté, vous avez les anges déchus, ces êtres indésirables, ceux qui ont péché, 2 Pierre 2,4, et puis ceux qui n'ont pas gardé leur dignité, Jude 1,6. Or, un chrétien peut attrister le Saint-Esprit, mais pas seulement le Saint-Esprit, mais aussi les anges. Et attrister un ange, c'est plus facile encore que d'attrister le Saint-Esprit. Parce que les anges sont moins forts que le Saint-Esprit et se laissent plus facilement attrister que le Saint-Esprit. Les anges sont moins forts. Les chrétiens, aujourd'hui, sont de moins en moins affermis dans les Écritures et ils ne mesurent pas l'importance du ministère des anges pour l'Église et pour eux-mêmes. Savez-vous, par exemple, que la loi que Dieu a donné a été donné à Moïse par des anges. C'est des anges. Actes 7, 53. Savez-vous que Paul croyait que c'était des anges qui étaient venus aussi? Hein? Galates 3, 19. L'auteur de la lettre aux Hébreux, moi je crois que c'était Paul, il dit aussi cela, Hébreux 2, 2, des anges, n'est-ce pas? Quand la Bible dit Dieu donna la loi, c'est des anges qui l'ont fait. Donc les anges ne font pas que des petits boulots, n'est-ce pas, pour aider les petits garçons, les petites filles qui traversent un pont qui est un peu moisi, comme on voit ça sur les dessins, les peintures catholiques. Hein. Ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement ces petits boulots-là, mais c'est des grandes choses aussi. Ils sont serviteurs de Dieu et ils sont là pour travailler en notre faveur. Hébreux 1, 7. Est-ce que vous savez que même les plus grands serviteurs de Dieu, vous voyez Osborne, vous voyez Bigram, tous ces hommes de Dieu qui font des choses extraordinaires, eh bien, ils seront toujours inférieurs aux plus petits des anges. Alors on est là, ah, tel était le serviteur de Dieu, ah, tel était l'homme formidable et tout. Mais ils sont plus petits que les anges, que le plus petit des anges. Hébreux 2, 7. Même Jésus, quand il était sur la terre, dans son corps humain, il était inférieur aux anges. Hébreux 2, 7. Ou 9, je ne sais plus. Enfin, il est temps que nous, en tant que disciples, nous apprenions ces choses-là afin de vivre en conséquence. Maintenant, Jésus est au ciel et les anges lui sont soumis. Hein. 1 Pierre 3, 22. Il est au-dessus des anges. Hein. Soumis, ça veut dire mis en dessous. Les anges ont été mis en dessous. Ils sont soumis, mis dessous. Les anges avaient une relation réelle avec les gens de foi dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance. Mais au cours des siècles, les choses saintes ont été perverties et c'est seulement depuis la Réforme que Dieu est en train de restaurer toutes choses. Et il fait les choses progressivement. Par exemple, il a commencé, en gros, hein, avec le salut par la foi, ces choses ont été révélées à nouveau, le salut par la foi, la Réforme. Puis après, quelques temps après, Dieu a ouvert un peu plus les mystères et il a révélé le baptême par immersion des adultes. Et puis ensuite... il a restauré les dons de l'esprit, hein, et puis ensuite la vie communautaire, et puis ensuite le baptême à la place des morts, et puis, Dieu n'a pas fini de restaurer les choses. Nous sommes au temps où Dieu restaure toutes choses. Maintenant, savez-vous que quand vous parlez en langue, par exemple, puisque les dons ont été restaurés, vous parlez des fois la langue des anges. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous parlez la langue des anges? Parce qu'il faut qu'ils vous comprennent. Ils peuvent vous comprendre quand vous parlez la langue des anges. Ils me diront, ah ben, autrement ils ne comprennent pas le français. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que quand je parle en langue, des fois je parle la langue des anges. Et il y a une raison. Dieu ne fait pas les choses bêtement. Non? Bien sûr. Maintenant, les chrétiens parlent plus de l'action des démons que de l'action des anges. Particulièrement en Afrique. Alors, ils sont très forts. Vous ne pouvez pas rester une heure avec des chrétiens ou avec des pasteurs sans que tout à coup on vous raconte des tas d'histoires démoniaques, des trucs. Je déteste ça. Parlons de l'action des anges. Alors ils discernent tout de suite l'action des démons, mais l'action des anges, ils ne discernent pas, ils ne voient pas. Ils ne se rendent pas compte. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les anges. Ils ne veulent pas être en communion avec les démons. Mais ils ont tellement peur d'être en communion avec les démons que même quand un ange se présente, ils le prennent pour un ange de lumière, déguisé, un ange du diable déguisé en ange de lumière. Ils comprennent rien. C'est malheureux. Ils n'ont pas le discernement des esprits. Qu'est-ce que c'est le discernement des esprits? C'est discerner si un esprit est de Dieu ou pas. Où est ce don? Il faut le manifester. Il faut prier, il faut demander à Dieu d'avoir ce don-là. Alors ils lisent dans le Nouveau Testament et ils voient que, n'est-ce pas, les anges sont très actifs. Et puis, j'y pense et puis j'oublie. Ils oublient ça dans leur vie pratique, les anges, rien du tout. Savez-vous que le Nouveau Testament parle 96 fois de un ange? Un ange a fait ceci, un ange a fait cela, un ange a dit, un ange est apparu, un ange. 81 fois, dans le Nouveau Testament, il est dit les anges. Des anges ont fait ceci, des anges. 81 et 96, comptez. C'est pas une petite doctrine. Hein, comme par exemple la doctrine de l'imposition des mains, vous avez très peu de versets qui parlent de ça. Pour le baptême pour les morts, vous avez très peu de versets qui parlent, une dizaine. Et puis, le parler en langue, encore moins. Mais les anges, vous avez des tonnes de versets, et personne n'est au courant, personne ne cherche à comprendre. Une doctrine, c'est ce qu'on peut comprendre quand on met les textes qui parlent d'une même chose ensemble. Et cette connaissance, mes frères et sœurs, elle doit être rétablie dans l'Église de Jésus-Christ. C'est obligé, c'est normal. Les chrétiens, par exemple, sont souvent... Et moi, j'étais frappé depuis que je suis né de nouveau, j'ai compris ça. Les chrétiens sont souvent en train de se placer sous le sang de Jésus. Vous n'avez jamais vu ça? Tout le temps, ils font ça. Comme si le sang de Jésus avait le pouvoir de les protéger. Le sang de Jésus nous a redimés, dit la parole de Dieu. Nous a rachetés. 1 Pierre 1,19. C'est par le sang de Jésus que nous avons été purifiés et que nous pouvons avoir accès au sanctuaire. Hébreux 13,19. Le sang de Jésus nous a purifiés. 1 Jean 1,7. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Romains 5,9. Nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Éphésiens 2,13. Mais il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui dise que le sang nous protège. C'est des croyances un petit peu comme on pense, voilà, les vampires, ils ont peur de l'ail. C'est aussi bête que ça, mes frères et sœurs, puisque ça n'est pas écrit dans la Bible, pourquoi toujours? Et puis alors c'est pire, c'est pas qu'ils demandent le sang de Jésus, comme si on pouvait demander que Jésus nous verse un peu de sang. Enfin bon. Mais ils invoquent le sang de Jésus, c'est infernal. C'est horrible. Ils croient que nous devons nous placer sous le sang de Jésus. Mais c'est quoi ça? Par contre, la Bible dit, je ne sais pas combien de fois, que les anges de Dieu nous protègent et que les anges déchus nous mettent en péril. Ah, ça, c'est vrai, ça, c'est écrit, par contre. Mais quand est-ce que vous voyez des chrétiens qui invoquent Dieu, qui supplient Dieu d'envoyer des anges? Jamais. Jamais. En 40 ans de ministère, non, plus de ça. En 43 ans de ministère, maintenant. Jamais j'ai vu un chrétien prier comme ça. Jamais. Maintenant, on va me dire, oui, mais vous, tu sais, Michel, le sang a été appliqué sur le linteau des portes en Égypte et l'ange de la mort, ça les protégeait contre l'ange de la mort. Pas du tout. Ça les protégeait pas du tout. C'était un signe, la Bible nous dit. C'était un signe. Quand l'ange de la mort voyait le signe, ça lui indiquait quelque chose. Ça lui indiquait que là, dans cette maison, il y avait des enfants de Dieu. Mais ça les protégeait pas. Simplement, c'était un signe. Et les anges de la mort avaient reçu une consigne. Vous ne touchez pas, quand il y a le sang, vous ne touchez pas. Maintenant, en parlant de ça, savez-vous à quoi maintenant les anges reconnaissent une femme de Dieu? 1 Corinthiens 11,10. Au voile qu'elle porte sur la tête quand elle prie et quand elle prophétise. Mais tout le monde s'en moque. On dit, est-ce qu'il faut porter un voile ou est-ce qu'il ne faut pas porter un voile? La Bible dit que c'est à cause des anges. Oh, mais on ne sait rien au sujet des anges. Alors voilà, on n'en porte pas. Je ne dis pas que vous devez être voilé comme des musulmanes. Je dis que, la Bible dit que vous devez porter un voile quand vous priez ou quand vous prophétisez. C'est juste à cause des anges. Mais de nos jours, quelle femme chrétienne se soucie des anges qui les regardent? Parce qu'attention, il y a deux sortes d'anges. Quand vous portez un voile pendant la prière, 1 Corinthiens 11,5, quand vous prophétisez, vous montrez par le voile que vous avez à tous les anges, bons et mauvais, quelle est l'autorité qui est sur vous? Si vous êtes marié, c'est votre mari. Si vous n'êtes pas marié, c'est l'Église. Les anges fornicateurs de Genèse 6, les anges qui ont quitté leur dignité et tous ces êtres-là, ne viendront pas vous exciter parce qu'ils savent que vous êtes sous une autorité. Vous êtes placé volontairement sous une autre autorité, sous celle de votre mari et celle de votre pasteur, de votre église. Et puis les anges de Dieu, eux, vont vous protéger, vont faire la garde. Non, stop, tu passes pas, il y a un signe. Vous comprenez? Quand nous attristons le Saint-Esprit, croyez-vous que les anges de Dieu continuent à vous servir? Éphésiens 4:30, pas du tout. Il se retire et il laisse la place libre. Mais quand est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est tout. À votre avis, qui se charge de vous alors quand les anges se retirent? Vous pouvez toujours invoquer le sang de Jésus et mettre de l'ail partout. Oh, ce n'est pas des esprits grossiers, d'incrédulité ou d'impureté qui vont se présenter, pas du tout. Aussitôt que vous commencez à résister à la parole de Dieu, à dire « non, moi je pense que, et comme ci et comme ça », au début, ce n'est pas des mauvais esprits impurs, graveleux et tout ça qui vont venir. Il y a des esprits. Parmi les esprits rebelles, il y en a des plus ou moins évolués. C'est les plus évolués qui vont venir d'abord, parce que vous êtes spirituels. Vous avez une connaissance spirituelle. Alors, c'est les esprits les plus évolués qui vont venir, ils vont se déplacer, les plus évolués qui vont venir vers les chrétiens, qui ont attristé le Saint-Esprit, qui sont plus sous la protection des anges. Eh bien, ces esprits déchus, mais évolués, un peu raffinés, vont se présenter à vous pour vous justifier dans votre action mauvaise, pour vous justifier dans votre mauvaise attitude. Et ils vont vous dire, mais t'as raison, la Bible dit, tu as raison. Vous comprenez? Ce sont des esprits religieux, ils connaissent la Bible. Ils vont vous montrer des textes qui vont vous conforter dans votre mauvaise attitude, dans vos mauvaises actions, dans ce que vous faites qui n'est pas bien. Ils vont dire, tu as raison, reste comme ça. C'est toi qui as raison, tu as la parole de Dieu pour toi. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils ont même essayé avec Jésus dans le désert. C'est ce Satan-là qui est venu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ils ont mis la parole de Dieu, il est écrit. Vous comprenez? Et vous pensez que vous êtes plus fort que Jésus. Puis ce qui est arrivé à Jésus, ça ne va pas vous arriver à vous. Mais bien sûr que ça va vous arriver à vous. Alors que faire? Une seule chose. Allez sur vos genoux et humiliez-vous devant Dieu. C'est très difficile de le faire. Et plus vous attendez, plus c'est difficile. Les mauvais esprits ne vont pas vous lâcher comme ça. Non. Reste sur ta position, c'est toi qui as raison. C'est à l'autre de revenir, c'est pas à toi. Parce que toi, tu es saint, c'est pas comme l'autre là-bas. Vous comprenez? C'est des mauvais esprits. Alors le cœur s'endurcit dans sa propre justice, n'est-ce pas? C'est des mauvais esprits. Alors, plutôt que d'avoir à déloger des indésirables, appliquez-vous plutôt à ne pas les attirer. C'est beaucoup plus simple, ne pas attirer les indésirables. Ne pas leur donner de nourriture. Vous vous rappelez ma prédication de vendredi passé? Alors, pratiquement, comment faire? Parce qu'il faut être pratique. Eh bien, ayez des moments précis de méditation pendant lesquels vous allez réfléchir. Je dis bien de méditation, pas de contemplation. La méditation, c'est réfléchir, c'est penser, c'est étudier. Contempler, c'est être en adoration devant Dieu et contempler Dieu. Alors, des moments de méditation pendant lesquels vous allez réfléchir à quoi? À la manière dont vous dépensez vos énergies. J'explique. On médite quoi? On médite sur quelque chose. Vous pouvez méditer sur Bartimée et toute votre vie. Hein? Mais moi, je pense que dans certains cas, et chaque jour, il est bon que vous méditiez à la manière dont vous dépensez votre énergie. On a un taux d'énergie, chacun, qu'on a à dépenser chaque jour et qui se recharge chaque jour et aussi pendant la nuit, quand on se couche. On s'endort et notre esprit va à la rencontre de Dieu. Et voilà. Je vous avais enseigné ces choses. Mais physiquement aussi. Mon père, il disait par exemple, un sac vide ne tient pas debout. Il faut manger, ça donne de l'énergie. Vous êtes d'accord? Eh bien moi, chaque fois que je vais au restaurant, quand je mange là-bas au restaurant, mais n'importe quel restaurant, hein, eh bien, quand je sors de là, je suis épuisé. Et le lendemain, je suis encore épuisé. Parce que la nourriture est tellement difficile à digérer, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est tellement difficile à digérer que vous dépensez plus d'énergie à digérer la nourriture qu'elle ne vous en apporte en réalité. Vous comprenez, mes frères? Eh bien, c'est la même chose dans le domaine spirituel. Quand on nous présente la nourriture de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, ne prenez pas de la Genèse à l'Apocalypse et vous faire une indigestion avec tout ça. Par contre, ruminez ce que vous avez mangé. Ne mangez pas trop vite non plus. Hein, ma femme, elle me fout toujours des coups de pied sur la table. Tu manges trop vite. Elle a raison, il ne faut pas manger trop vite. Il faut bien mâcher ce que vous mangez et puis ensuite ruminer. Vous savez que le mot ruminer, c'est le même mot, étymologiquement, ça vient du même mot que méditer. Hein? Repasser de nouveau, réfléchir, méditer, remanger, ruminer. Qu'est-ce que vous ruminez?
Ruminer, il m'a dit ça, puis moi j'ai dit ça, puis après il m'a dit ça, puis moi si j'avais su, j'aurais dit ça.
C'est ça qu'on rumine en général. Ruminer le bien, ruminer la parole de Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Par contre, je veux que vous soyez en communion avec les anges. Les prédications qui me sont inspirées sont précieuses, mes frères et sœurs, c'est une bonne nourriture pour vous, ne les gaspillez pas. Pensez à leur origine quand vous méditez, réfléchissez. Pensez au travail que Dieu fait avec ses anges pour venir me convaincre, pour me donner les pensées, pour que je les mette par écrit, que j'y réfléchisse, donc si je me présente devant vous pour vous les donner. Estimez ces prédications, estimez-les. Ne vous bornez pas à les écouter qu'une fois. On vit dans un temps où nous avons besoin de tellement de force que Dieu permet qu'on puisse enregistrer les choses et les écouter une deuxième, une troisième, une quatrième fois grâce à l'Internet, au CD, au DVD, à tout ce que vous voulez. Et nous, on écoute une fois, puis on dit « J'y pense et puis j'oublie. » Voilà. C'est dommage, non? C'est dommage. C'est dommage. Estimez ces choses que Dieu vous donne. Si vous ne faites pas ça, quelle nourriture va se trouver en vous? Qu'est-ce qui va se trouver en vous? Et ensuite, quel esprit allez-vous pouvoir nourrir avec ce que vous avez? C'est-à-dire, quel esprit va venir vivre avec vous? Rappelez-vous, si vous gardez la parole de Dieu, c'est Dieu qui vient vivre en vous. Mais pas seulement Dieu, mais toute l'équipe, les anges, tout ça. Pas tous, mais quelques-uns. Il faut laisser aux autres aussi les anges, parce que les anges sont à une place à la fois. Hein. Mon ange, il n'est jamais avec vous, il est avec moi. D'accord? Donc vous n'allez pas avoir toute l'armée des anges avec vous, mais certains anges. Mais si Dieu n'est pas avec vous, si vous ne gardez pas sa parole, Dieu n'est pas avec vous, mais vous croyez que les anges sont avec vous? Non. Alors qui est avec vous? Quelle nourriture? Si vous n'avez pas la bonne nourriture, si vous ne gardez pas la parole de Dieu précieusement en vous, vous avez une autre nourriture obligatoirement. La nature a peur du vide. Et c'est les mauvais esprits qui vont venir pour bouffer ce que vous avez en vous. Puis après, vous êtes malade, triste. Bon. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Alors, les démons vous donnent des choses, vous n'êtes pas obligé de les prendre. La parole de Dieu vous est donnée, prenez-la. Prenez-la, nourrissez-vous-en, méditez-la. Michou, elle reprend toutes mes notes, elle réécrit tout sur des cahiers depuis des années, des années, des années. Elle dit, je préfère réécrire que réécouter. Pour elle, c'est comme ça que ça rentre le mieux. Ben, trouvez comment ça rentre le mieux hein, en vous. Et puis, parce qu'on est chacun différent. Moi, ce qui fait que ça rentre bien, c'est que j'en parle souvent. Plus j'en parle, plus ça rentre. C'est drôle, hein? Plus je donne, plus je reçois. Ce n'est pas tellement d'écouter plusieurs fois, c'est de parler plusieurs fois de la même chose qui fait que ça s'ancre en moi. Vous voyez, on est tous un peu différents. Mais en tout cas, prenez soin de ce qui est précieux de la parole de Dieu. Ce qui vous est donné, le prenez-vous. Le mastiquez-vous correctement. L'avalez-vous, le digérez-vous, le transformez-vous. Est-ce que vous le transformez en énergie? La question. Parce que ce que vous bouffez là, ce qu'on mange, les pizzas là ce soir, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ce qu'on va manger là tout à l'heure, eh bien, on va le transformer en énergie. Ce n'est pas juste pour aller aux toilettes. Hein. On transforme en énergie. Si c'était seulement pour aller aux toilettes, on irait à Carrefour acheter la nourriture pour la jeter aux toilettes tout de suite. Ça serait beaucoup plus rapide, pratique. Non? Alors, n'éliminez pas rapidement les choses. Parce que si, pourquoi est-ce qu'on élimine rapidement les choses de Dieu? Pour aller prendre d'autres nourritures, des nourritures indigestes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ces nourritures indigestes, elles attirent quoi? Elles attirent des esprits inférieurs. Alors, restez, imposez à vos pensées. Voilà, tu restes sur la parole de Dieu, tu médites ça, tu y repenses, voilà, tu écoutes encore. Vous savez, Dieu nous tient responsables. Dieu vous tiendra pour responsable de l'utilisation de vos énergies, parce que c'est lui qui vous donne votre taux d'énergie tous les jours. Quand il est dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain, on le mange pourquoi? De quelle manière est-ce que vous utilisez vos énergies? Dans quelle direction vous orientez vos énergies? Dans quel but vous cherchez à avoir de l'énergie? Devant tout ce qui se présente, demandons-nous, qu'est-ce que ça va donner à mon avancement? Vous avez vite fait le choix. Hein? Quand je vois que ça ne donne pas grand-chose, ben je ne m'y arrête pas. Parce que je sais que je ferai là que de donner de la nourriture pour des esprits inférieurs. Ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se distraire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des pulls de pélican. On peut faire toutes ces choses, Dieu nous en tiendra par ailleurs, mais il ne faut pas que ça occupe toute notre vie. Puis la parole de Dieu, juste le vendredi soir pendant 25 minutes, et le dimanche matin aussi. Chaque jour, mes frères et sœurs, réfléchissez à l'utilisation que vous avez de vos énergies. Vous savez, Jésus disait une chose étrange, il disait « Laissez les morts enterrer leurs morts, vous les vivants, suivez-moi. » Celui qui s'est éloigné de la vie de Jésus, de son enseignement, celui qui a attristé le Saint-Esprit s'est retiré, les anges se sont retirés, eh bien, il est mort. Il est mort. Il ne garde pas la parole de Dieu. Celui qui ne garde pas la parole de Dieu, il est mort, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et la Bible nous dit « Les morts enterrent leurs morts ». C'est-à-dire que les morts, ben, ils vont rencontrer d'autres morts, puis ils vont s'enterrer les uns les autres. C'est ce que le monde fait. C'est ce que le monde fait. Ils s'enterrent les uns les autres en faisant des choses qui les lient, qui les épuisent et s'enterrent les uns les autres. Quant à vous, si vous voulez vivre par le Saint-Esprit, vous devez suivre celui qui donne la vie. Il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de reprendre. Jean 10, 18. Suivez celui qui donne la vie. Suivre celui qui donne la vie, c'est garder sa parole révélée pour notre temps. Si vous gardez la parole que Dieu a donnée à Noé, faut que je construise une arche, ben vous aurez l'air idiot, hein, parce que ce n'est plus le temps. Dieu a quelque chose à dire à notre époque. Vous ne pouvez pas vous contenter, par exemple, de garder la parole révélée dans les années 1500. Ça, c'était bon pour Luther. Si vous êtes encore des luthériens, il faut changer. Dieu a dit d'autres choses maintenant. Si vous êtes encore luthérien, vous avez la vérité, mais pas toute la vérité que Dieu a révélée depuis. Il faut aller un peu plus loin. Si vous êtes que baptiste, il faut que vous évoluiez, parce que Dieu a dit des choses nouvelles encore. Si vous êtes que pentecôtiste, il faut que vous évoluiez, parce que Dieu a dit encore d'autres choses. Les pentecôtistes, ils disent, nous avons le plein évangile. Ben, ils se trompent, c'est pas vrai, ils n'ont pas le plein évangile. Dieu a dit des autres choses depuis ce fameux réveil de la Pentecôte, qui a 100 ans maintenant. Vous croyez que Dieu n'a pas révélé de nouvelles choses depuis 100 ans? Vous devez garder sa parole, parce que nous vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si nous vivons de la parole qui sort de la bouche de Dieu, à ce moment-là, nous avons Dieu avec nous, et puis tous les anges avec nous, et nous ne sommes pas en communion avec les démons. On ne peut pas être en communion avec les démons et avec les anges en même temps. Mais vous ne pouvez pas être en communion. Si vous voulez être en communion avec les démons, les anges, ce n'est pas possible. Supporte pas ça, ça cohabite pas, la lumière ne cohabite pas. Des fois les gens me disent, ah oh, mais il est chrétien puis il est possédé. Ben, parce qu'il a donné accès, je suis désolé, il a donné accès au diable. Quand on donne accès au diable, ben, on est séduit, au début ça commence pas par une possession, en général ça commence par une obsession, ça commence par un petit truc, et puis ça peut se transformer en possession. Mais un chrétien, un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les ténèbres, c'est pas possible. Si vous faites ces choses que je vous dis, Dieu viendra, restera avec vous, et lui viendra avec ses anges, et les mauvais esprits ne trouveront rien en vous, le diable non plus, et vous serez beaucoup plus paisible à l'intérieur, même si vous avez des tourments avec les gens de l'extérieur et avec leurs démons. Vous serez vous-même en paix, comme dans un îlot tranquille, protégé, gardé. Amen. Merci Seigneur d'instruire mes frères et sœurs. Merci Jésus de bénir ceux qui écoutent sur Internet. Permet que nous puissions méditer sur ces choses, aller chercher tous les textes qui parlent de ces choses dans ta parole et nous permettre de grandir, de mûrir et de prendre conscience de la présence des anges avec nous. Merci pour ce que tu vas nous dire encore dimanche prochain à ce sujet toujours. Je te prie de préparer le cœur de chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui écoute. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu.